Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après une semaine de calme relative due essentiellement aux vacances scolaires, l'actualité reprend de plus belle en ce mois de mai et ce sur tous les fronts. Concerts, opérettes, récitals, festivals, il va y en avoir pour tous les goûts et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. Ça va nous donner l'occasion de vous proposer un programme éclectique comme nous les aimons. Pour m'aider à vous le présenter, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mon cher camarade Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il accompagne l'invité d'honneur de ce numéro, Jean Dardignat, fondateur et président du festival Musique au Pays de Gabriel Fauré qui va commencer à Pamiers jeudi 16 mai avec le concert d'ouverture de Jean-François Zigel. Il va y avoir d'autres affiches et musiciens prestigieux lors de cette 25e édition. Nous en parlerons avec Jean Dardignat en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'actualité musicale récente sur laquelle nous allons revenir avec Serge. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité récente, c'est entre autres le dernier concert de la saison bleue donné mardi 30 avril à l'auditorium du musée des abattoirs. C'est un quatuor à cordes qui s'y produisait et c'était un peu une rareté puisqu'il s'agissait d'une formation espagnole, le Cuarteto Quiroga, pour une première à Toulouse, une première à ma connaissance en tout cas. Un quatuor très en vue et très renommé de l'autre côté des Pyrénées. Serge Chauzy, vous étiez présent à ce concert, ça vous a permis de découvrir ces quatre musiciens espagnols et si j'ai bien compris, vous avez été emballé par leurs prestations.
Ah, complètement, oui, oui, oui. Voilà un ensemble de musique de chambre qui mérite vraiment d'être diffusé, d'être écouté. Alors, je l'ignorais complètement. D'abord, j'ignorais d'où venait le nom Quiroga. Je sais maintenant qu'il s'agissait d'un grand violoniste espagnol, Manuel Quiroga. Et donc, ils ont pris son nom comme nom de baptême. Et donc, ce sont quatre musiciens vraiment qui joue, qui travaille, la main dans la main, on peut dire. Hein. On a par moment l'impression d'un instrument à 16 cordes. Et pourtant, chacun a sa propre sonorité. Et ce qui est un peu miraculeux, hein, ça arrive chez les grands quatuors, c'est que justement, ces sonorités sont complémentaires. Et donc, ça crée un son, un assemblage de timbres tout à fait exceptionnel.
Et
donc,
un équilibre aussi, sans doute.
Hein. Et un équilibre parfait. On entend absolument chaque élément du quatuor de manière tel que l'œuvre le demande, hein. En tout cas c'est l'impression que l'on a. Donc ils sont arrivés avec un programme qu'ils ont élaboré en fonction de l'exposition qui avait lieu au musée des abattoirs, qui s'appelle Picasso et l'exil. C'était donc le quatrième concert de la série Saison Bleue sur ce thème-là. Et donc, ils ont élaboré un programme d'une grande intelligence et d'une grande cohérence. Alors, il y avait trois œuvres espagnoles, l'une de Turina, l'autre de Halfter, Rodolfo, puisqu'il y a plusieurs Halfter, hein, la famille était très prolifique en musique. Et puis, Ginastera, donc le compositeur argentin. Et puis, au milieu, il y avait le huitième quatuor de Shostakovich, parce que ce quatuor possède une thématique qui est très proche de celle des autres œuvres espagnoles, qui, elles, étaient là dans le but de rappeler un peu les supplices du peuple espagnol au moment de la chute de la République et de la conquête du pouvoir par Franco. Et donc, j'ai compris, d'après les présentations de musiciens, le deuxième violon présentait le concert, que vraiment, ça leur tient à cœur de rendre hommage à la République espagnole et de stigmatiser ce que Franco a fait à la suite de cette terrible tragédie. Donc, il y avait trois œuvres espagnoles tout à fait magnifiques. Alors, d'abord de Turina, alors une œuvre un peu traditionnelle, celle-là, alors qui était présentée d'ailleurs comme le bonheur avant la déflagration. C'est l'Oración del Torero. Alors ça, c'est connu, hein, c'est une œuvre. Et là, ils l'ont donnée dans la version quatuor à cordes. Et c'est là qu'on a découvert les belles sonorités de ce quatuor, qui, je voudrais le signaler, est donc venu à Toulouse en partenariat avec l'association Pro Quartet. C'est quand même important parce que Pro Quartet fait beaucoup, c'est le centre européen de musique de chambre, il fait vraiment beaucoup pour la promotion du quatuor à cordes et de la musique de chambre par Quatuor
Accord. Et je sais qu'Alain Lacroix, donc, qui est le fondateur et l'organisateur de la Saison Bleue, travaille beaucoup avec Pro Quartet. C'est pour ça qu'on a souvent des trios, des Quatuor Accord ou des trios avec piano dans la programmation de sa saison.
Exactement. Il faut leur rendre hommage, ils font un énorme travail. Donc, il y a eu cette prière du torero avant la corrida écrite. Alors, initialement, c'était écrit pour un quatuor de luth. Et puis, ça a été transcrit donc par lui-même. Hein. Et là, on a pu apprécier la cohésion, la précision du jeu, la beauté des sonorités qui sont vraiment habilement mêlées, mélangées. Ensuite, il y a eu cette pièce d'Ernesto Halffter, Ochocientos.
Rodolfo Halffter.
Pardon, Rodolfo, excusez-moi. Effectivement, Rodolfo Halffter et ses 8 petits tableaux. Hein, donc, et alors, eux sont des tableaux qui sont à l'opposé de ce qu'on pouvait s'attendre pour une évocation de la guerre, parce que ça déborde de fantaisie et de joie, justement. Hein. Et donc, c'est un peu fébrile, mais il y a une agitation incroyable avec des idées musicales dans le traitement des cordes qui est tout à fait amusant. En particulier, le premier violon qui se met à hennir à moment, comme un cheval. C'est vraiment tout à fait amusant. Et puis enfin, la dernière œuvre de culture ibérique, c'est le premier quatuor de Alberto Ginastera, qui lui aussi a subi un exil puisqu'il a dû fuir, lui, non pas l'Espagne, mais l'Argentine, à l'arrivée de la dictature des colonels. C'était vraiment un peu le fil rouge.
La thématique de l'exil, évidemment, hein, qui se retrouve chez tous ses compositeurs. Voilà, concernant Shostakovich, bon, vous allez en parler,
c'est un peu
différent, mais c'est un exil intérieur.
Un exil intérieur, lui, en effet. Alors, il s'est réfugié dans Ginastera en Suisse, où il est mort en 1983. Et il était très imprégné vraiment de culture populaire. Et donc, ce quatuor est une sorte d'exaltation de la musique populaire argentine. Alors, on a l'impression d'y évoquer la pampa avec les grands espaces argentins. C'est vraiment une belle œuvre que l'on découvre là, hein, avec un premier mouvement qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle Allegro Violento ed Agitato. Mais je peux vous dire qu'il était à la fois violent et agité. Et il y a un seul mouvement qui n'est pas dominé par le rythme impérieux, c'est le calmo e poetico, un mouvement d'une grande beauté, et là qui fuit un peu cette agitation rythmique qui imprègne toute l'œuvre. Ça, c'était les trois œuvres donc ibériques, on pourrait dire. Hein. Et puis, au milieu, au cœur du concert, ils ont tenu à jouer le quatuor numéro 8, c'est le plus célèbre hein, de Shostakovich, qui en a composé 15 quand même, et qui est dédié en 1960 à la mémoire des victimes de la guerre et du fascisme. Alors là, on plonge dans l'extrême douleur humaine, mais c'est poignant, c'est une œuvre qui vous transperce le cœur, quoi. C'est vraiment terrible. Et là, ils ont fait des choses formidables, notamment en mettant bien en évidence la fameuse signature musicale de Shostakovich, qui est les initiales. Alors, dans l'écriture allemande, puisque c'est DSCH, Dimitri Shostakovich, mais en allemand, on écrit Shostakovich SCH, et non pas CH comme chez nous. Ces quatre notes, c'est Ré, Mi, Bémol, Do, Si, et qui sont assénées du début à la fin, dans tous les mouvements de l'œuvre, de manière comme s'il s'agissait d'un coup de poignard systématique. Donc, c'était vraiment magnifique. Avec ce que les musiciens ont su s'approprier, c'est-à-dire la douleur, la terreur même. Il y a des moments où vraiment on a le frisson. Hein. Ça donne la chair de poule, hein, cette œuvre. Elle est extraordinaire. C'était vraiment une interprétation magnifique au milieu des autres œuvres. Et puis alors, ils ont eu un énorme succès. La salle du musée des abattoirs, l'auditorium, est une petite salle, mais qui est tout à fait favorable à ce genre d'effectif, aussi bien pour piano seul que pour quatuor, ou pour petit effectif de musique de chambre, donc c'était très bien. Donc, ils ont été énormément applaudis, au point que, évidemment, ils sont venus pour jouer un bis. Et là, on peut dire qu'on était très gâtés, parce qu'ils nous ont joué un bis tout à fait exceptionnel, puisqu'il a été composé spécialement pour ce programme, et que son titre, c'est Lincoln in Jarama. Alors, je me suis un peu renseigné, il nous a expliqué un peu. Jarama, c'est le nom de la bataille à laquelle a participé la brigade Abraham Lincoln en février 1937. Et donc, ils ont voulu jouer en bis cette œuvre, en hommage aux brigades internationales qui sont venues tenter d'aider la République, donc poignarder, et donc c'était des forces populaires. Il a très bien expliqué, le présentateur, donc le second violon, comment la République espagnole a été soutenue du mieux qu'elle a pu par ces individus qui venaient de toutes les nations et qui venaient soutenir un peu la République espagnole. C'est une espèce d'hommage musical qu'ils ont rendu, et là, on a pu entendre, on a pu découvrir ou redécouvrir des chants célèbres de l'époque. Il y avait le fameux Bella Ciao. Et puis, il y avait également cité le fameux chant des oiseaux de Pau Casals, qui faisait partie des thèmes de cette œuvre. Donc, j'ai trouvé ça très touchant, très beau. Et donc, il faut absolument les remercier. J'espère qu'on les reverra à Toulouse.
En tout cas, on a bien compris que vous avez été emporté par tout ce qu'ils ont produit là, le 30 avril et le public aussi, apparemment. Hein. Mm-hmm. Grand succès.
Énorme succès.
Je pense qu'on les reverra sans doute.
Ils méritent vraiment.
Et puis, ce sont nos voisins. Il n'y a aucune raison qu'on ne les accueille pas régulièrement. Bien. Alors, comme vous avez été, je le redis, emballé par la manière dont le Quartetto Quiroga a joué, entre autres, le quatuor numéro 8 de Shostakovich, je vais vous proposer de les écouter encore une fois interpréter cette superbe pièce du grand compositeur russe. Il s'agit du deuxième mouvement Allegro Molto. Le deuxième mouvement Allegro Molto du quatuor numéro 8 de Shostakovich, un mouvement qui illustre bien ce que vous avez dit du côté rageur de cette œuvre, Serge Sozzi. Il était interprété ici par le Quartetto Quiroga et c'était une des œuvres que la formation espagnole a jouée lors du dernier concert de la saison bleue le 30 avril. Nous terminons là-dessus cette première partie d'émission et nous faisons la petite pause habituelle avant de nous retrouver avec Serge Sozzi et Jean Dardinien, l'invité d'honneur de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Ozy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Jean Dardigna, fondateur et président du festival Musique au pays de Gabriel Fauré.
Mélomanie, l'agenda.
Jean Dardigna, président de Musique au pays de Gabriel Fauré, est donc l'invité d'honneur de ce numéro. C'est la 25e édition du festival, créé en 1995 à Pamiers, pour le 150e anniversaire de la naissance du compositeur, dans la ville où il a vu le jour en 1845. Et comme je sais que vous êtes à la fois incollable et intarissable sur Gabriel Fauré, Jean Dardigna, je vais d'abord vous demander de nous raconter la petite histoire de la famille Fauré en Ariège. Est-ce que les racines ariégeoises du grand musicien sont anciennes et profondes ?
Elles sont et anciennes et profondes, en effet. La généalogie de Fauré remonte donc jusqu'au XVIe siècle. Nous avons la chance d'avoir à Pamiers un généalogiste responsable du cercle occitan, je crois, généalogie, qui a donc recomposé toute la généalogie des Fauré. Et cela donne un résultat d'une généalogie qui doit faire à peu près 3 mètres sur 1,50 m à peu près. Donc on remonte au XVIe. Alors, essentiellement, le point commun, c'est que ce sont à 95% toujours des commerçants et même des bouchers. Voilà. Alors, arrivons à Gabriel. Lui est de la branche qui était de Varilhes, en fait, qui était entre Pamiers et Foix. Son grand-père était boucher à Foix. Et on a encore la boucherie qui est existante. Et le maire de Foix, M. Meller, très attaché à Gabriel Fauré, même si tout se passe à Pamiers, mais très, très solidement attaché à nous, souhaite mettre une plaque sur cette boucherie qui est en plein centre de Foix, à côté de la fontaine de Loye. Pour ceux qui connaissent Foix, c'est le plein centre de Foix. Alors, Fauré donc, est de cette branche plutôt de Verniol. Donc son grand-père, je le répète, était boucher. Et son père était une exception. Il était intello, intellectuel.
Instituteur.
Alors voilà, il a commencé instituteur et il a exercé à Gaillac-Toulza, donc c'est à côté en face de Sainte-Gabelle. Et là, il a rencontré une jeune personne, ils se sont mariés et lui-même a monté dans la profession et il est devenu sous-directeur des affaires primaires, de l'enseignement primaire, et il était nommé à Pamiers. Dans ma Pamiers, les voilà locataires. Ils trouvent une maison en plein centre de Pamiers, qui est actuellement une maison privée. Enfin, il y a une plaque, bien sûr, qui commémore. Hein. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai eu la chance de la visiter. Elle est restée dans l'état complètement. Et notre souhait à nous, association, c'était d'en faire un musée, mais bon. Et donc, le petit Gabriel est né le 12 mai 1845 dans cette maison. Le 13 mai, il était baptisé en face à l'église Notre-Dame du Camp. Vous savez, c'est la belle église de Pamiers.
Oui,
je dis
oui,
la belle
oui.
Parce que j'aime beaucoup Notre-Dame du Camp. Elle a son style particulier, rénové actuellement. Et donc, on a encore, bien sûr, la cuve baptismale de l'opération du 13 mai. Et je dois vous dire que chaque fois que nous faisons rentrer des musiciens dans cette église, alors au début du festival, tous les concerts avaient lieu dans cette église. Ensuite, on a une salle qui est aujourd'hui en travaux. Cette année, on revient pour la quasi-totalité dans cette église. Chaque fois que les musiciens rentrent, les penetiers, les collards, enfin, tous ceux qui sont venus dès le début, hein, si vous voulez, Gérard Poulet, Noël Lee, enfin bon, les noms, je peux en citer des dizaines. Bon, le Quatuor Isaïe, on parlait de Quatuor tout à l'heure avec les Espagnols, mais le Quatuor Isaïe, donc tout le monde connaît. Chaque fois, ils étaient très, très émus de jouer dans ce lieu qui est, bon, quand même la mémoire de Gabriel Fauré. Ensuite, il est resté en Ariège jusqu'à l'âge de 9 ans, dans le petit Verniol. Mais à 9 ans, un hasard incroyable et heureux a fait que, aujourd'hui, je pense qu'on dirait l'attaché parlementaire du député de l'époque. Entend Gabriel Fauré à Foix. Pourquoi à Foix ? Parce que son père avait été monté dans la hiérarchie, était devenu directeur de l'école normale d'instituteurs, pas d'institutrice, d'instituteurs de l'Ariège. Et c'est à Montgauzy. Montgauzy est une petite colline qui domine en quelque sorte Foix, c'est en allant vers le Prince Albis, beau lieu de balade. Et il y avait donc une belle chapelle consacrée à la Vierge, un harmonium, et le petit Fauré a été sensible aux notes de l'harmonium, et puis a pris le piano. Alors là, je vais vous livrer un scoop, c'est que ce piano existe toujours, que je l'ai vu, mais qu'il appartient à une famille qui visiblement n'a pas trop envie de s'en détacher. Il a pris le piano avec une professeure qui était aveugle, et actuellement, dans cette maison de foi où se trouve le piano, belle maison, hein, il y a au-dessus un tableau qui représente justement cette personne aveugle. Donc il y a tout pour rappeler la mémoire de Forim. Enfin, bon, c'est privé.
Petite précision, est-ce que dans la famille, la musique était quelque chose qu'on entendait, qu'on jouait déjà, ou ça a été un peu le premier, une génération spontanée de musiciens dans la famille?
Alors là, totalement le premier, et même à part le père, totalement le premier, on va dire, intellectuel, si on se permet le mot moderne d'aujourd'hui. Bon. Et en effet, si vous voulez, Fauré l'a écrit quand j'étais à Montgauzy. Alors il a été charmé par le, je sais pas si vous connaissez Montgauzy, enfin c'est, ça domine un peu donc,
oui,
la vallée de la Barguillère,
oui,
la vallée,
je connais un peu, moi,
hein,
oui.
Un petit peu. Et donc il a été charmé par la beauté des lieux, l'harmonie des lieux, la douceur des lieux. Il ne se tournait pas vers le mont calme, ou d'ailleurs on le voit pas de Montgauzy, mais de Montgauzy on voit une vallée adoucie, et je crois que ça explique aussi beaucoup de choses
dans sa musique.
Dans sa musique.
Ah oui, je le crois aussi. J'allais vous poser la question d'ailleurs, si la nature ariégeoise avait beaucoup inspiré par la suite, parce qu'il est revenu, bon, il est parti à Paris à 9 ans pour étudier la musique, il sera l'élève de Saint-Saëns, plus tard il sera le maître de Ravel, entre autres, mais il est revenu souvent, hein, donc dans l'Ariège, tout au cours de sa vie.
Ben, il revenait tout d'abord pendant les vacances scolaires, tout simplement, parce que donc il était logé à Paris, pensionnaire à l'école Niedermeyer. C'est vrai que c'est ce départ, quand on passe à un petit gamin de 9 ans, que son père, enfin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais enfin, l'accompagne jusqu'à Paris, bon, en diligence, ça fait moi Toulouse.
Avec le temps que ça mettait à l'époque.
Voilà, avec jusqu'à Châteauroux.
Et l'inconfort.
Le train arrivé à ce moment-là à Châteauroux, et ils ont pris le train, ils ont découvert le train à ce moment-là. Enfin, c'était une aventure, voilà. Donc, il revenait familialement, très souvent en Ariège. Ce que je retiens, c'est que, un, chaque fois qu'il venait, il s'arrêtait à Pamiers, où le train arrivait à l'époque, hein, et il descendait chez son cousin Jean Fauré, qui est mort, je crois, en 70, que j'ai bien connu, hein, qui est une personnalité commerçante de Pamiers. Et il couchait à Pamiers dans l'immeuble qui est contigu à l'église du Camp, sur la place du Camp. Et quand je dis que l'orgue de Notre-Dame du Camp, qui date de 1869, qui est un orgue romantique, qui est magnifique. Alors là, je fais une parenthèse, mais tous ceux qui sont venus depuis Olivier Latry jusqu'à Lefebvre, sont admiratifs dans cet orgue. Michel Chapuis, enfin bon, tous sont venus. Et donc, je reviens à l'orgue. Fauré était à l'époque, on le sait, organiste de la Madeleine. Et je suis persuadé qu'il est monté écouter les sons de l'orgue du Camp, qui était à 5 mètres de la maison où il se trouvait pour être accueilli chez les cousins. Si je me permets, si j'ai 30 secondes, j'ai une anecdote très personnelle à donner concernant ses séjours de Fauré. Parce que vous savez qu'il il bougeait beaucoup, il écrivait beaucoup, mais comme beaucoup à l'époque, tous. Hein, je vois Ravel écrivait énormément, tous.
Correspondance, vous voulez dire.
Correspondance, oui, énormément. Sûr, oui. Il lui écrivait chaque jour à sa femme. Chaque jour à Marie, qui vivait à Paris, il écrivait. La fidélité était au moins épistolaire, si elle n'était pas autre. Hein.
On n'en dira pas
et
plus.
Et voilà, mais ils étaient tous bons, vous savez, aujourd'hui encore. Bon, alors, ça, ce n'est pas un sujet. Mais c'est que en 1918, maintenant, oui, je me trompe peut-être d'un an, 17, un an près, excusez-moi, je n'ai pas le document sous les yeux. Fauré était à Pamiers, et il écrit une longue lettre à sa femme, en lui disant, voilà, je suis à Pamiers, j'aurais bien voulu aller sur la tombe de mes parents qui sont enterrés à Gaillac-Toulza, dont je parlais tout à l'heure, mais il fait tellement mauvais qu'on m'a demandé, je suis un peu fatigué de rester là, alors tous mes cousins sont là, il y a un gros feu de bois, et puis ils ont voulu aussi montrer qu'ils aimaient la musique. Alors, ce moment, quand j'ai lu cette lettre-là dans la correspondance de Fauré, que l'on trouve dans le commerce, hein, mais le hasard a fait que, il y a quelques années, ma propre tante, la sœur de ma mère, hein, me dit, mais tu vois, tu fais tout ça, Fauré, mais tu sais, j'ai joué devant Gabriel Fauré. Je la regarde, elle me dit, mais oui, quand il est venu à Pamiers, on a dit, mais il faut lui montrer qu'on fait de la musique. Alors, tu sais, moi, j'étais au conservatoire de Toulouse, je passais la médaille d'or, à l'époque, il y avait des médailles d'or, hein, et donc j'étais à ce stade-là, on m'a mis au piano, et on m'a dit, ben, tu vas jouer. Et elle me dit, à un moment donné, j'ai vu la porte s'entouvrir, la canne apparaître, puis un bout de moustache, et puis la tête de Gabriel Fauré. Il a écouté, puis il a dit, avec son accent ariégeois qu'il a toujours gardé, elle joue bien, la petite.
Voilà. Donc,
voilà, et donc ma tante m'a raconté ceci, voilà, c'est authentique, hein, c'est authentique.
Alors, on arrive au festival, donc vous créez, que vous fondez en 1995 avec quelques camarades et amis passionnés.
Bien sûr.
Quel est le concept de ce festival et la ligne directrice de la programmation? Parce qu'évidemment, il rend hommage à la musique de Fauré, donc on peut s'attendre à cette fois beaucoup joué, que beaucoup d'œuvres de Fauré soient jouées pendant le festival, mais pas seulement, il y a notamment beaucoup les musiques de ses contemporains, des compositeurs qu'il a fréquentés, que pour certains il a formés d'ailleurs.
Oui, que pour certains, il a formé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, bien sûr, ne jouer que Dufauré, ce serait aller nulle part. Hein. C'est très vaste, parce qu'il y a en effet ceux qui l'ont formé, comme Saint-Saëns, par exemple, qui l'a formé.
Ses maîtres.
Mais également ceux qui l'ont beaucoup marqué, et en particulier la musique romantique allemande, il y a deux musiciens qui l'ont beaucoup marqué. Il y a Brahms, pour la musique de chambre, et Schumann, tous les deux. Et plus j'écoute, vous voyez, je vous dirai que moi aussi, j'avance, j'évolue avec le temps, et plus j'écoute Dufauré, et plus j'écoute du Schumann ou du Brahms, et plus je me dis, mais là, c'est encore plus fort qu'avec Chopin, parce que souvent on l'a dit, Fauré, c'est Chopin.
Oui. Enfin, comme beaucoup de musiciens français de l'époque, d'ailleurs. Enfin, compositeurs français de l'époque.
Ouais, tout à fait.
Chopin avait beaucoup influencé. Mais effectivement, il y avait la musique allemande, fatalement.
Mais, Fauré a un point commun avec Chopin, c'est qu'il a pris le titre de ses œuvres, en fait, chez Chopin. Ça a été repris après chez les romantiques, ballades, etc. Bon, vous savez que Fauré refusait même, normalement, il n'aurait même pas voulu de titre à ses œuvres. Il aurait voulu garder juste le titre, le nom d'opus.
L'opus.
Il ne voulait pas que la musique nous
perturbe l'imaginaire. Voilà. Le titre perturbe l'imaginaire lorsqu'on écoute la musique.
Tout à fait. Il n'est pas d'étiquette, en quelque sorte.
Pas d'étiquette. Debussy a fait un peu la même chose dans les préludes, il met le titre à la fin. Ouais. Bon, mais enfin maintenant...
Oui.
Mais là, Fauré, c'est cette musique qui, au fond, doit être, telle que je la ressens, vécue profondément, écoutée attentivement, et c'est un univers dans lequel il faut pénétrer, qui n'est pas toujours facile, c'est vrai.
Alors, les compositeurs qui sont dans cette programmation, il y a ses contemporains, il y a ceux qui l'ont influencé, il y a ceux qui l'ont influencé, mais il y a même des compositeurs d'aujourd'hui. Et notamment, il y en a un qu'on connaît bien à Toulouse, parce qu'il a souvent dirigé l'Orchestre du Capitole, et que l'Orchestre du Capitole a créé plusieurs de ses œuvres, c'est Bruno Mantovani. Et vous m'avez appris quelque chose que j'ignorais totalement, c'est que lui aussi a des racines ariégeoises.
Oui, là, c'est un hasard absolument, vraiment dans la vie, hasard objectif, comme avait dit Breton, mais enfin, c'est incroyable. Voilà. C'est une histoire ça prend deux minutes, mais il faut la raconter en entier, parce que vraiment, pour vos auditeurs, c'est quelque chose de très fort, et que Bruno aime en raconter aussi. Il y a une dizaine d'années, Bruno était en résidence à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm de Paris. Surtout que mon fils était pianiste de qualité, et il a préféré aller vers les études, donc normale sup. Il a réussi normale sup, très bien réussi, mais pendant 4 ans, il a été le pianiste de normale sup. Il se trouve que Mantovani était en résidence pendant une année et que mon fils a été obligé de travailler du Mantovani, un trio. Et à l'issue de ça, il me dit, tu sais, Mantovani, Pamier, je sais pas, j'ai entendu. Bon, faut penser qu'un gamin de 20 ans à l'époque entend le grand-mère. Enfin, première étape. Mais enfin, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, comme l'on dit. Deuxième étape, le trio Vendereur vient à Pamiers, revient plutôt. Bon, on lit amitié avec eux, on discute. Et pendant le repas, arrive le violoniste May de Mantovani. Et me dit, tiens, Mantovani, mais que... je lui dis, Mantovani, il paraît qu'avec Pamiers, il y a des liens. Ah bon? À la fin du repas, il me montre son smart et me dit, réponse à Mantovani, oui, j'ai des liens avec Pamiers, mais qui te l'a dit? Et le musicien, Jean-Marc Philips, me dit, tu devrais travailler la fille de Mantovani, voilà. Ben écoutez, j'ai pas hésité, malgré le fait que, bon, nous soyons à Pamiers, que je ne sois pas un musicien, j'écris immédiatement le lendemain à Mantovani. Réponse le surlendemain. Cher monsieur, alors là, je pourrais la citer par cœur, la réponse, mais en un mot, je suis en effet très attaché à Pamiers. Mes grands-parents, et je pensais tout à l'heure, monsieur Chosy, en vous écoutant, mes grands-parents sont espagnols, ils sont venus en 36 lors de la Retirada. Mon grand-père a travaillé à l'usine Pamiers.
Grande usine de Pamiers.
À la grande usine métallurgique. Ils ont habité à Pamiers avant de se retirer à quelques kilomètres, Saint-Jean de Faga. Ils sont enterrés au cimetière Saint-Jean de Pamiers, où je vais régulièrement. Mon grand-père est mort il y a 10 ans. Ma mère est née à Pamiers. Alors, bon, voilà que ça amène tout de suite quelques liens. Et je finis la petite histoire des petits événements précis, mais c'est tellement fort dans la vie quand même, il ne faut pas... Je vais, bon, quelques jours après, à Paris, Bruno Mantovani me reçoit au conservatoire, et la dernière surprise, mais alors vraiment inattendue, il arrive avec un sourire, bon, tout ça. Moi, vous rendez compte, dans son bureau, un bureau où Fauré, enfin, n'était pas dans ce bureau puisque le conservatoire a déménagé. Mais enfin, 100 ans avant, c'était Gabriel qui était.
Vous parlez de hasard objectif, c'est que Mantovani est compositeur comme Fauré, a évidemment des racines ariégeoises comme Fauré, et est directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris comme Fauré le fut en son temps.
Voilà, en gros, 100 ans auparavant.
Voilà.
Et je vois Bruno, bon, très bon monsieur, et tout de suite, avant de me dire quoi que ce soit, il me dit « Monsieur, mais je ne vous ai pas tout dit. Vous savez, à la maison, le dimanche matin, quand ma mère rentrait de la messe, mes grands-parents lui demandaient « Et alors, Dardigna, il a bien joué là-haut » Qu'est-ce qu'il a fait, Dardigna ? Il s'agissait de mon propre père, qui était organiste. Pianiste aussi, mais enfin là, en l'occurrence, organiste, et les fameuses, vous savez, sorties des messes de 11h qu'il y avait, voilà. Alors, à partir de là, ben, j'ai fait tout un lien. À Pamiers, beaucoup de gens ont retrouvé Madame Mantovani. Elle est venue elle-même, il y a 4-5 ans, dans un concert, voilà. Et j'ai demandé à Bruno de nous faire quelque chose pour le Festival Fauré. Je voulais vraiment une... J'ai passé commande. C'était la seule commande que nous ayons pu, parce que une association qui n'a pas des moyens énormes, et puis c'est... Voilà. Et alors, il se trouve que après pas mal de temps, alors que ses amis musiciens, Claire Désert m'avait dit, par exemple, « Mais tu sais, Bruno, ça m'étonnerait qu'il te fasse quelque chose, parce qu'il est tellement surbooké. » Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des commandes partout. Eh bien, cette année, voilà qu'il nous propose, et qu'il a fait une commande. Et c'est un trio pour un trio. Alors,
pour le trio Vendereur.
Alors, c'est moi qui me suis arrangé pour les Vendereurs. Il m'a dit, mais oui, fais-le avec eux, tellement on est liés. Enfin, je ne raconte pas tous les détails. Et donc, on aura ceci au mois d'octobre. Voilà. Septembre, pardon.
Alors, on va revenir d'abord à la programmation du printemps. Parce qu'une des particularités de ce festival, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il se déroule en deux temps. Il y a une partie au printemps, une partie en automne. Une partie en mai-juin, une partie en septembre-octobre, pour être précis. On va s'intéresser à celle qui arrive, là, donc, avec ce concert d'ouverture, jeudi 16 mai à 20h45, à l'église Notre-Dame du Camp, dont vous avez largement parlé, et c'est Jean-François Zigel qui va interpréter ce concert. Il sera seul, il va improviser.
Il sera seul.
Et c'est un concert dont le programme, c'est souvent le cas avec Zigel, est à ce jour en tout cas totalement inconnu.
Ah oui, ce sont des improvisations. Il est parti pour improviser, mais avec quand même une idée.
Oui, il y a une idée de départ.
Il y a quand même un titre, c'est Dans la tête de Gabriel Fauré.
Eh, déjà, il faut y entrer dans la tête de Gabriel Fauré.
Je sais pas.
Non. Ça part aussi d'une anecdote. Vous aimez bien les anecdotes, vous avez pour raconter celle-ci. Bon, c'est Zigel qui la raconte. Oui. C'est que lorsqu'il était enfant, il avait un voisin, enfin sa famille avait un voisin très connu à l'époque, peut-être un peu moins connu aujourd'hui si ce n'est des mélomanes, mais qui a un lien très fort avec Fauré, justement. Oui. Et ce voisin, c'était Charles Panzera, le grand ténor suisse.
Tout à fait. Et il était... Bariton.
Bariton.
Et oui, c'est ce que écrit Zigel, et donc, on sait que la femme de Panzera était pianiste, Madeleine, et qu'elle a appris le piano à Roland Barthes, en particulier.
Oui.
Et donc, que Barthes a très bien connu Panzera, et qu'il y fait allusion dans ses mythologies aussi, de façon, par rapport au chant français.
Absolument.
Et alors, Zigel, donc, à partir de là, a eu l'idée de monter quelque chose, un concert d'imagination. Bon, c'est du Zigel. Il est déjà venu 3 fois à Pamiers, avec beaucoup de brio. Enfin, à Toulouse, il vient très, très souvent, je sais.
Oh, oui, c'est moi. Très souvent, c'est même un euphémisme.
Oui.
Mais, on le voit 5 ou 6 fois par an à Toulouse, Jean-François Zigel.
Voilà. Et il m'a... C'est lui qui m'a proposé, il m'a dit, ce concert-spectacle, parce que c'est Zigel aussi, je tiens à le donner à Pamiers, j'aimerais le donner à Pamiers. Bon, bah écoutez, on a pensé en faire une belle affiche d'ouverture pour les 25 ans, on verra ce qui en ressort, là, c'est surprise.
Alors, comme on n'a aucune idée de ce que va jouer Jean-François Zigel le 16 mai, je propose qu'on écoute celui qui l'a un peu inspiré pour se mettre dans la tête de Gabriel Fauré, le grand baryton suisse Charles Panzera, le voici qui interprète la très belle mélodie « Les berceaux ».
Balance.
Les berceaux, mélodie de Gabriel Fauré sur un poème de Sully Prudhomme, chanté par le baryton Charles Panzera, qui fut donc le voisin de Jean-François Zigel dans sa jeunesse. Concert de Jean-François Zigel, ouverture du Festival Musique au Pays de Gabriel Fauré, jeudi 16 mai. Et donc le concert suivant, ce sera le mercredi 22 mai, toujours à 20h45 et toujours à Notre-Dame-du-Camp, avec un duo piano à quatre mains, deux pianos à quatre mains. C'est un couple à la ville, c'est un couple pour la musique, Marie-Joseph Jude, Michel Béroff, qui se sont d'ailleurs succédé en tant qu'enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Un programme donc piano à quatre mains avec des œuvres de Fauré, Debussy, Ravel et Ducas, pour le coup les contemporains français. Est-ce qu'ils sont déjà venus jouer séparément, Michel Béroff et Marie-Joseph Jude à Pamiers?
Ni l'un ni l'autre. Simplement, pourquoi sont-ils là? Parce qu'ils sont membres du jury du concours de piano international de piano Gabriel Fauré, dont c'est la 6e édition, qui est présidée par Jean-Philippe Collard. Rien que ça.
Invité d'honneur cette année.
Qui sera invité d'honneur, on en reparlera. Et dans lequel participe au fait Gilles Colliard, dont vous devez parler souvent
ici. Oui.
Sylvie Gilles, donc en tant que non-pianiste.
Directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Voilà. Et très éminent violoniste, s'il en est.
Et très grand musicien. Je peux vous dire que dans les jugements qu'il porte sur le piano, il est absolument plus qu'étonnant. Bon, alors donc, c'est comme ceci que nous les avons connus. Et puis, bon, Michel Béroff, il y a longtemps que j'aurais aimé l'avoir. Bon, vous savez qu'il a été longtemps obligé de quitter la scène parce qu'il a été victime d'une tendinite terrible, oui. terrible. Oui. Alors, ce sont aussi des amis de Collard, de Jean-Philippe. Enfin, en fait, si vous voulez, ça traduit l'état d'esprit de ce que nous faisons à Pamiers depuis 25 ans. Je dois dire que si nous avons... on peut dire réussi quand même, au moins on a tenu 25 ans, c'est beaucoup. Mais enfin, si on a réussi à monter vraiment quelque chose de très très haut niveau, c'est parce qu'il y a de la chaleur, de l'humanité, de l'humain, et nous avons horreur de fonctionner de façon officielle avec un agent de Zano. Tout se passe progressivement, et s'ils reviennent tous les deux, c'est parce que Collard reviendra à la suite, Claire Désert est venue très souvent, enfin, et c'est pour moi une leçon vraiment d'humanité que nous essayons de donner, que le public ressent également.
Et donc le programme qu'ils vont jouer à quatre mains, alors, il y aura quelques morceaux en solo, je crois, joués par Michel Béroff tout de même.
Le premier nocturne de Fauré, oui.
Voilà, Et donc c'est un hommage à la belle époque de la musique française.
Mais oui, c'est...
Fin 19e, début 20e.
Et oui, c'est... Je crois, on dit de la musique française, mais peut-être pas seulement de la musique française, c'est peut-être aussi la belle époque.
Il y a une espèce d'âge d'or, je pense.
Voilà, d'âge d'or. Alors, en tout cas, pour la musique, c'est bon. Après, bon, les historiens discutent le sens de belle époque. Tout n'était pas très beau, bien sûr. Mais enfin, quand on voit la peinture, l'architecture également, quand on va à Paris, enfin, même à Toulouse.
Paris est à l'époque le centre du monde artistique,
la planète. L'exposition universelle qu'il y avait. Enfin, vous voyez, plus on rentre dans cette époque-là, plus on se dit, mais vraiment, à l'époque, la France, Paris, essentiellement, bien sûr, mais enfin, et la France en particulier, mais Paris surtout, avait vraiment un rôle universel qui était extraordinaire.
C'est vrai. On va écouter Michel Béroff dans Debussy, où il excelle avec cette interprétation du très beau prélude de la suite bergamasque. Le prélude de la suite bergamasque de Claude Debussy, interprété par Michel Béroff, extrait d'un album qu'il avait enregistré il y a quelques décennies maintenant. Michel Béroff et Marie-Joseph Jude donnent donc un concert à quatre mains, mercredi 22 mai à 20h45 à Notre-Dame du Camp. Le troisième concert de cette 25e édition n'a pas lieu à Pamiers, mais à l'Estive, la scène nationale de Foix, mardi 4 juin. Encore à 20h45, et ça va être un moment bien particulier de ce festival 2019, puisque c'est le groupe Baum qui va s'y produire, avec un programme de mélodies de Gabriel Fauré, jusque-là rien d'étonnant, mais alors revu à leur manière très décalée par rapport au standard du genre, c'est moins qu'on puisse dire, je trouve. Expliquez-nous un peu ça, Jean Dardinien.
Oui. C'est une idée de l'ancien directeur de l'Estive, à qui je dois rendre hommage, qui est décédé brutalement au mois de janvier, Michel Pintenet, donc qui m'a mis sur cette piste. Alors, c'est un spectacle de théâtre, en fait, puisqu'ils ont fait la clôture du Festival d'Avignon au Palais des Papes.
Oui, création Festival d'Avignon, juillet 2018.
Juillet, c'était la clôture de le public rempli. Tout ça pour des mélodies de Fauré. Et en fait, oui, l'air y est, bien sûr, la mélodie est là, mais ce sont les accompagnements qui sont différents. Il peut y avoir de la guitare, il peut y avoir du violon à certains moments. Il y a un essai de mise en scène que l'on voyait bien plus, bien sûr, à Avignon, au Palais des Papes. Là, on va voir sur une scène fermée, ça sera différent, c'est évident, puisque ce groupe Baume, en fait, il est à géométrie variable, on dirait. Ils se disent arrangement, interprétation du groupe Baume est invité. Donc, il y a 5 chanteurs différents, de grande qualité vocale en soi, mais que le metteur en scène donc a voulu amener à procéder de façon... Alors, vous avez dit décalé, oui, c'est ça. Bien sûr, on ne sera pas dans les salons bourgeois des belles écouteuses du Faubourg Saint-Germain.
Oui, alors, c'est-à-dire, je pense que ça peut plaire à toutes les générations, mais ça peut choquer les puristes. Ceux qui ont une idée bien arrêtée de ce que doit être une interprétation d'une mélodie de Fauré, un piano, une voix, bon, là, il s'agit d'autre chose. Il faut le dire clairement.
Et oui. Seulement, peut-être que c'est aujourd'hui le seul moyen pour ramener un public plus vaste.
Oui, à découvrir le reste du festival.
Et
la musique de Fauré en général.
La musique de Fauré, parce que quand on a entendu Les Berceaux tout à l'heure par Charles Panzera, c'était magnifique, il n'y avait rien à redire. Enfin, à mon avis, il n'y a rien à redire.
C'est l'interprète de référence pour la musique de Fauré.
Mais quand on va l'entendre, le même poème. Après tout, c'est vrai, vous posez une question qui mériterait un débat très fort.
Il y a une manière, si ce n'est d'y répondre, en tout cas de donner les moyens de répondre à ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe et qui sont sans doute intrigués, qui ont envie de savoir à quoi ressemblent ces arrangements des mélodies de Fauré par le groupe Baum. Voici de quoi se faire une idée avec leur version d'Au bord de l'eau, une des plus célèbres mélodies du compositeur ariégeois.
Le voir passer, tous deux s'ils glissent un nuage en l'espace. Le voir glisser à l'horizon s'il fume un toit de chaume. Le voir fumer aux alentours si quelques fleurs embaument. S'en embaumer, entendre au pied du sol où l'eau murmure. Ne pas sentir tant que ce rêve dure. Le temps durer, mais n'apportant du passé en profond.
Au bord de l'eau, mélodie de Gabriel Fauré, réarrangée par le groupe Baume et chantée ici par Himiko Paganotti, que vous pourrez entendre sur la scène de l'Estive de Foix, mardi 4 juin à 20h45 avec l'ensemble du groupe pour leur programme de mélodie de forêt. Le festival va reprendre ensuite à l'automne, il y aura la coupure l'été. Jean Dardinien, je vais juste donner les dates. Hein. Il y a Jean-Philippe Collard le 20 septembre, le Trio Wanderer le 27 septembre avec la création mondiale de l'œuvre de Bruno Mantovani, et il y aura Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellum en clôture le vendredi 4 octobre, ce sera la cathédrale Saint-Antonin. Peut-être un mot sur Jean-Philippe Collard. Vous l'avez dit, éminent foréen s'il en est.
Oui,
vraiment passionné par la musique de Gabriel Fauré.
Et oui, depuis qu'il a enregistré des Barcarolles en 1973, je crois. Enfin, il avait 22-23 ans à l'époque. Et il est devenu la référence foréenne, même si aujourd'hui, bon, on enregistre beaucoup Fauré et beaucoup et même différemment. Hein. Voilà. Et donc, nous en avons fait notre invité d'honneur et puis notre référence, puisque cela fait au moins la cinquième fois qu'il vient à Pamiers et toujours avec autant de succès.
Grand pianiste Jean-Philippe Collard, donc il ne pourra pas rater le concert le 20 septembre. Voilà donc pour la programmation de cette 25e édition de Musique au Pays de Gabriel Fauré, dont la soirée d'ouverture a lieu jeudi 16 mai, je le rappelle, à 20h45, avec le concert de Jean-François Zigel à l'église Notre-Dame du Camp de Pamiers. Avant de terminer cette émission, comme il nous reste quelques minutes, je voulais donner la parole à Serge Chosy, pour qu'il annonce et présente une journée de concert organisée au superbe domaine de Rochemontès, sur la commune de Seille, au nord-ouest de Toulouse. Et là encore, il s'agit de piano à quatre mains, Serge.
Mais oui, exactement. Alors, l'Orangerie de Rochemontès, on la connaît pour avoir assisté à plusieurs saisons de concerts dominicaux qui avaient lieu dans cette orangerie. Je vous rappelle que c'est un bâtiment magnifique, un bâtiment du XVIIe siècle, donc dans lequel il y a eu pendant plusieurs saisons des séries de concerts donc du dimanche. Et là encore, ce sera un dimanche à la campagne, avec deux concerts organisés ce même dimanche 12 mai, avec également donc un duo de deux pianistes, Stéphanie Humo et Fabrice Cocito, qui sont à la fois associés à la scène comme
à la ville,
comme à la
selon
ville,
l'expression hein, consacrée.
Voilà, c'est un couple donc qui vient jouer à quatre mains, avec un seul piano donc, et ils viennent organiser deux concerts. Le matin à 10h30, il y aura d'une part la sonate en fa majeur de Mozart, sonate à quatre mains, puis alors une pièce courte de Schubert, mais je ne sais pas laquelle, peut-être...
C'est pas indiqué, donc
c'est pas indiqué,
une
donc,
petite surprise sans
une
doute.
Pièce de Schubert. Et enfin, le carnaval des animaux de Saint-Saëns, et le récitant, ce sera Fabrice Cocito lui-même.
Oui, parce qu'il est des talents de comédien, s'il n'est pas que musicien,
oui,
hein,
bah, oui,
Fabrice Cocito.
Oui. Donc c'est très bien. Et ensuite, il y a un repas champêtre.
Espérons donc, que la météo sera de la partie.
Hein. Alors espérons que oui, que la météo permettra de...
Ouais, il y a des solutions de repli, hein, que les gens ne s'inquiètent pas
sûr,
pour ça. Hein.
Bien sûr. Voilà. Et donc l'après-midi à 15h, après le déjeuner, les deux musiciens interpréteront une série d'œuvres, dont la sonate en ré majeur, ou en si bémol majeur, on ne sait pas encore exactement, de Mozart, puis de Mendelssohn, l'Andante Allegro assai vivace, de Schubert, le Lebensturm en la mineur, de Debussy, la petite suite, de Fauré, nous retrouvons
Gabriel bien
Fauré, Dolly, évidemment, à quatre mains, et puis la danse macabre de Saint-Saëns, donc également jouée à quatre mains.
Copieux programme.
C'est copieux.
Ah oui, oui.
Varié.
Varié, divers. Donc...
Et très champ. Je trouve que ça va bien pour un dimanche
c'est
à la campagne.
C'est parfait. Deux concerts qui encadrent un déjeuner, c'est tout à fait ce qu'il faut pour un dimanche.
Voilà,
pacifique.
Donc notez ce dimanche 12 mai à 10h30 le concert du matin au domaine de Rochemontès, l'après-midi à 15h, entre-temps le petit repas champêtre. Allez, je vous donne quelques secondes pour dire un mot sur Mamzelle Nitouche qui commence ce samedi 11 mai au Théâtre du Capitole, Mamzelle Nitouche, l'opérette d'Hervé, avec Olivier Py en vedette, on va dire ça.
En vedette puisqu'il tient trois rôles.
Voilà, il sera content que l'on dise, il est en vedette.
Voilà, il est en vedette, alors on peut dire qu'il tient trois rôles, dont des rôles féminins. Donc ça va vraiment, je crois, ça va
déménager. Il va être dans son élément,
ça va être très bien,
je pense.
Et donc oui, c'est une production qui a été créée à Toulon en 2017. Il faut simplement rappeler que ça a été créé au Théâtre des Variétés à Paris en 1883 et que la création toulousaine a suivi de peu, puisqu'elle date de 1884, et ça a été donné pour la première fois, non pas au Théâtre du Capitole, mais au Théâtre des Nouveautés, qui était un théâtre, donc à l'époque, qui donnait des opérettes et des œuvres un peu plus légères. Donc voilà, et elle a été jouée régulièrement sur la scène du Capitole, à la suite de cette création toulousaine, jusqu'en 1965 où elle a disparu complètement. Donc elle n'a pas été
rejouée depuis. Le retour 54 ans après, tout de même.
Voilà, voilà. Donc nous retrouverons cette sainte Mamselle Nitouche donc sur la scène du Capitole avec une distribution tout à fait brillante, avec une direction musicale de Christophe Grapeton, une mise en scène de Pierre-André Weitz, etc. Donc vraiment avec une distribution.
Oui, je pense on peut passer un très bon moment en allant voir ce spectacle, et puis on peut faire confiance à Olivier Py pour animer ça à sa manière, comme il sait faire, et je sais qu'il a ses fans à Toulouse.
Voilà, il est là sous deux noms, le nom d'Olivier Py et de nom Miss Knife.
Bah, Miss Knife, c'est son personnage, personnage qu'il a créé sur scène et dont il a fait un spectacle qu'on a vu au Théâtre Sorano il y a quelques années. Il est temps de terminer ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie Serge Chosy d'avoir participé une fois de plus. Un grand merci également à Jean Dardinia d'en avoir été l'invité d'honneur. Ravi de vous avoir reçu aujourd'hui et d'avoir évoqué avec vous la programmation du 25e festival Musique au Pays de Gabriel Fauré à Pamiers. Concert d'ouverture jeudi 16 mai à 20h45 à l'église Notre-Dame du Camp avec Jean-François Zigel, puis concert de Marie-Joseph Jude et Michel Béroff au même endroit et à la même heure mercredi 22 mai, et enfin concert du groupe Baume mardi 4 juin à l'Estive, la scène nationale de Foix. Ce sera aussi à 20h45. Vous pouvez trouver tout le détail de la programmation sur le site de l'Office de Tourisme de Pamiers, www.ot-pamiers.fr. Je rappelle également les dates des autres événements musicaux de la semaine. Tout d'abord, le concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Ponce avec la soprano Anne Schwanewilms ce samedi 11 mai à 20h à la Lograin. Au programme 4 derniers leaders et ainsi par les Zarathoustra de Richard Strauss ainsi que le Beau Danube Bleu de Johann Strauss fils. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce même samedi 11 mai commencent les représentations de Mamselle Nitouche, l'opérette d'Hervé, au Théâtre du Capitole avec Olivier Py en vedette de la distribution. La première a lieu à 20h ce samedi et il va y avoir 4 autres représentations les 12, 17, 18 et 19 mai. Celle des dimanches 12 et 19 commencent à 15h, les autres à 20h. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner sur le site www.theatreducapitole.fr. Concernant les concerts de piano à quatre mains que donnent Stéphanie Humeau et Fabrice Cossito au domaine de Rochemontès à Seille ce dimanche 12 mai à 10h30 puis à 15h, vous pouvez réserver vos places en envoyant un mail à l'adresse contact@rochemontes.com. Et je rappelle enfin le concert des Clés de Saint-Pierre ce lundi 13 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est le dernier de la saison et vous allez pouvoir y entendre le magnifique quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Les réservations sont à faire sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Merci à Mathieu Courdi d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.